Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 126, c'est l'édition spéciale, c'est l'édition du vendredi, donc on est sur la chaîne principale et on se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On arrive à la fin de cette deuxième semaine de... J'allais dire cette deuxième semaine de contamination. Ça serait pas complètement faux. Cette deuxième semaine de confinement, j'espère que vous allez bien, que le moral va bien et que vous tenez bon. Résilience, hein, c'est le mot d'ordre de l'État. C'est un joli mot, la résilience. On en reparlera peut-être tout à l'heure. On se retrouve donc ici pour le mug numéro, j'ai dit quoi, 126, c'est le 126, c'est l'édition du vendredi. Alors, ceux qui connaissent pas bien l'émission, c'est une émission, le mug Nowtech, qui a lieu tous les matins de la semaine, mais du lundi au jeudi, on est sur la chaîne secondaire Nowtech Live. Donc, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire. Et le vendredi, donc, on se retrouve tous, c'est un peu la grand-messe, on va dire, on se retrouve tous pour communier ensemble autour de News Tech. Et pas de steak, hein, de news tech, hein, pas de mauvais jeu de mots dès le vendredi matin, hein, un petit peu de pitié quand même. On va attaquer les news. Les news sont toujours un petit peu spéciales le vendredi puisque je fais un récap de la semaine de ce qu'il fallait retenir en news. Et après, je passe au news tech du vendredi parce qu'il y en a aujourd'hui. Donc, on attaque tout de suite avec le Kawa, c'est les news. Et pour les news, cette semaine, les news de la semaine qu'il fallait retenir. Je m'aperçois d'ailleurs que j'ai pas branché mon iPad. Attendez, je dois juste faire un petit check technique pour tout à l'heure. Est-ce que l'iPad est reconnu ou pas? Ou pas? Attendez, il faut juste que je résolve ce problème parce qu'on risque d'en avoir besoin. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est bon. L'iPad est reconnu. Donc, ce qu'on devait retenir de cette semaine, eh ben, on a déjà YouTube qui est passé en 480p par défaut à travers le monde. Ça a commencé effectivement en France et maintenant, c'est dans le monde entier. Alors, en fait, quand vous lancez maintenant une vidéo YouTube, elle est en 480p. Après, vous pouvez changer la résolution. Mais c'est là qu'on s'aperçoit que le 480p, c'est pas si mal que ça, notamment quand on regarde sur un smartphone. Donc c'est peut-être une bonne habitude à garder, on verra plus tard, quand les choses seront revenues à la normale, si elles reviennent à la normale. Ça, c'est encore une autre question. Il y a eu effectivement une ribambelle d'annonces par rapport à ça. Je vais en reparler dans les articles de la semaine qu'il fallait retenir. Est-ce que vraiment ça valait la peine de faire toutes ces réductions de débit? Est-ce que Internet est sur le point de craquer? On en parlera tout à l'heure. Autre sujet qu'il fallait retenir de cette semaine, la France qui réfléchit à une stratégie numérique d'identification des personnes. On risque d'en entendre beaucoup parler. Effectivement, sur le modèle un petit peu de la Corée du Nord et de la Chine qui ont beaucoup utilisé des moyens technologique pour limiter le confinement et suivre le déplacement des personnes, la France commence à y réfléchir. Il y a plusieurs manières de faire. Il y a des manières de plus ou moins, on va dire, pas légales, mais disons qu'il y a des manières de plus ou moins intrusives. Aujourd'hui, il y a du data qui existe sur nos déplacements, qui est parfaitement anonymisé. On sait que, par exemple, Apple qui utilise des données quand même sur nos déplacements, mais les utilise de manière... Ils ne savent pas qui c'est. Ils ont des stats générales de mouvement qui les aident à perfectionner et à concevoir un certain nombre de services pour nous, mais vous n'avez pas votre nom, l'étiquette et tout ça qui est au-dessus du data. Ils ne peuvent pas vous tracer. Ces informations-là restent sur le smartphone. Il y a ce niveau-là d'information des smartphones, on va dire sur les grands déplacements, qui pourraient déjà être utilisés par l'État. Mais c'est vrai que, par exemple, en Corée du Sud, j'espère que j'ai dit... Ouais, j'ai dit Corée du Nord. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Je voulais parler de la Corée du Sud, bien évidemment, vous aurez compris. En Corée du Nord, ils n'ont pas besoin de ça. De toute façon, ils n'ont pas de smartphone. Mais ils ont une caméra par habitant. Non, je plaisante. Enfin, j'en sais rien. Enfin, bref. Corée du Sud, ils ont utilisé effectivement du tracking beaucoup plus individuel, notamment pour les personnes contaminées. Alors, ça a été très efficace. Hein. La Corée du Sud est aujourd'hui un des pays qui a le mieux géré la crise du coronavirus. Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais c'est vrai qu'ils ont réussi à un espèce de confinement virtuel qui est extrêmement intéressant. On en reparlera tout à l'heure parce que justement, il y a une appli qui fait un petit peu polémique. Ça sera dans les articles du vendredi. Dans les articles qu'il fallait retenir aussi cette semaine, la baisse des ventes de smartphones qui est spectaculaire, 39% au mois de février, c'est dû à la fois effectivement aux chaînes de production qui sont un peu en panne à travers le monde, même si ça commence à reprendre en Chine. Et surtout, les consommateurs qui, un, ont d'autres priorités et qui, deux, ne peuvent plus se déplacer pour aller acheter effectivement des smartphones, puisqu'encore beaucoup de gens achètent pas en ligne leurs smartphones. Donc, c'est pas de bon augure, effectivement, et pour les sorties de smartphones et pour le marché, ça veut dire que ça va être un marché à redémarrer. On verra, effectivement, les conséquences que ça va avoir. Mais peut-être que des gens s'apercevront que, finalement, leur ancien smartphone est pas si mal que ça et ça changera peut-être des habitudes de consommation, on verra. J'en parlais il y a quelques instants, un article qui était assez intéressant, des numériques sur Internet, est-il vraiment sur le point de craquer ? On s'aperçoit qu'en fait, il y a un peu une mauvaise compréhension du fonctionnement d'Internet. Non, les tuyaux, c'est encore large, il y a la place. Ça passe tranquille, ça passe crème, même si effectivement nos habitudes de consommation d'Internet ont complètement explosé avec le confinement. Le problème vient plutôt de certains serveurs qui hébergent des services qui n'ont pas été dimensionnés pour l'usage qu'on en fait en ce moment, d'où parfois des sensations, enfin des impressions de ralentissement, mais en fait c'est le service qui a du mal à... Enfin c'est les serveurs qui hébergent les services qui ont du mal à suivre. Donc ce qu'on comprend, c'est que toutes ces annonces, la baisse de qualité sur Netflix, le retardement de Disney+, YouTube qui baisse sa résolution, c'est plus des décisions politiques que vraiment techniques. YouTube a les serveurs pour encaisser le choc. Et ils l'ont fait un peu parce que les pouvoirs politiques en place dans les pays... Alors, est-ce est-ce qu'ils ont fait un calcul politique, genre on maîtrise les choses, on arrive à faire plier les GAFAM, regardez, ils suivent nos règles, etc. Peut-être pas. Bon, après, on peut comprendre aussi que voilà, le télétravail et la télééducation étant prioritaire, c'était une manière de dire n'abusez peut-être pas de YouPorn en pleine journée. Ou regardez YouPorn en 480p. Hein. Globalement, vous allez voir la même chose. Hein. Je veux pas être vulgaire, mais une dick pic en 480 ou en 4K, on s'en fout. Hein. On est d'accord. Disney+, c'est Orange qui veut pas payer le peering. Il y a effectivement, on va dire, des discussions compliquées. C'est pas pareil en 480p. Ça y est, j'ai lancé un débat. YouPorn est-il acceptable en 480p? Je vous laisse débattre dans la chatroom de ce problème-là. mais je dirais que c'est un petit peu de la masturbation intellectuelle, hein, mais c'est un avis personnel. Amazon France, et c'est en train de s'étendre à d'autres pays, a décidé de cesser les livraisons non prioritaires. Alors ça a été une annonce en milieu de semaine, on voit pas trop sur la plateforme, personnellement je suis allé voir, il y a effectivement des retards dans les livraisons, mais globalement, j'ai l'impression qu'on peut à peu près tout commander. Mais vient se greffer effectivement un autre problème qui est d'autant plus grave, c'est les règles de sécurité pour les gens qui travaillent chez Amazon et autres distributeurs. Encore une fois, on tape sur Amazon, mais il y a des problèmes pour toutes les personnes qui aujourd'hui travaillent pour qu'on puisse continuer à se nourrir, pour qu'on puisse continuer à recevoir des objets, à faire fonctionner le commerce. Les règles de sécurité, notamment quand les flux de livraison sont tendus, Moi, je le vois, j'ai un indicateur, c'est que comme j'ai des affiliations, et pas que chez Amazon, je vois que pas mal d'entre vous, bah, comme on a du temps, bah, on commande des trucs. Et les commandes ont tendance à plutôt être à la hausse en ce moment, ce qui fait quand même prendre des risques aux gens qui travaillent, et du coup, leur inflige des conditions de travail qui sont pas acceptables. Certains, d'ailleurs, ont mis leur droit de retrait, etc. Enfin, ça, c'est... on va dire, tout un dossier politico-social dans les pays qu'il va falloir surveiller de près. On ne peut pas effectivement bloquer toute l'activité. À nous aussi, peut-être, d'avoir un certain civisme. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut arrêter de commander. Mais évidemment, il faut commander ce dont on a vraiment besoin. Quelqu'un me posait la question hier, ma manette de jeu vidéo en panne, est-ce que j'en commande une ou pas ? J'ai envie de dire oui, peut-être fais une commande groupée de plusieurs choses dont tu as besoin, pas que non plus il y ait des livraisons inutiles, accepte des systèmes lents de livraison, moi j'aimerais bien qu'ils mettent cette option en place pour moins de contraintes, mais une manette de jeu vidéo, alors comme je disais hier, il y a des vieux cons qui vont dire « Ah, mais t'as qu'à prendre des livres, machin, pour pas t'ennuyer, moi, à mon époque, machin », mais non, nous, aujourd'hui, les générations, notre source de divertissement, c'est le jeu vidéo, si t'as plus de manette pour pouvoir jouer, bah, oui, tu peux commander, mais après, il faut accepter que ce n'est pas une commande prioritaire. Moi, j'aurais aimé, personnellement, qu'Amazon et d'autres distributeurs mettent une espèce de case à cocher. Ne me livre pas en priorité. Livre-moi quand tu pourras et quand ça fera moins de bazar sur les chaînes de livraison. Mais après, quand tu as arrêté de commander des choses, je suis beaucoup plus réservé là-dessus parce que démanteler complètement notre économie et les flux économiques, c'est très dangereux aussi pour notre santé aussi. Hein, d'ailleurs, pas que pour se faire des gros sous de gros milliardaires qui fument des cigares. Notre tissu économique est mis à mal aussi. Ça sera d'autant plus dur de remettre les choses sur les rails si on fige l'économie. Donc, je suis très réservé et c'est, mais après, je suis le premier à dire, c'est très difficile ce type de décision. C'est des décisions après personnelles. Non, OSEF pas de l'économie, non. Non, on ne peut pas SOSEF de l'économie, Clément. Ça serait bien, hein, mais on ne peut pas SOSEF de l'économie. Je comprends hein, que ça crée des polémiques et qu'il peut y avoir des gens qui montent au créneau. Il ne faut pas arrêter de vivre et trier les informations médiatiques. Je fume des gros cigares, je ne suis pas encore milliardaire. C'est bien, tu as fait la moitié du chemin. Les hypermarchés qui vendent des manettes. Après, on peut se demander en termes de propagation, est-ce qu'il vaut mieux sortir dans un magasin pour aller acheter une manette ou est-ce qu'il vaut mieux la commander ? On peut se poser légitimement la question. Si on est strictement sur le point de vue sanitaire et limiter la propagation, on peut se poser la question. Je n'ai pas réponse à tout. Je ne suis pas un expert virologue. Je ne suis pas un expert de l'économie et vous non plus. Donc, on peut avoir ses opinions, à chacun de décider ce qu'il y a de bien ou de pas bien à faire. Je pense que arrêter complètement de consommer, ça peut être très dangereux aussi. Voilà, c'est tout ce que je pense. La consommation, je sais que c'est un sale mot en France, mais c'est ce qui fait fonctionner notre pays pour l'instant. Donc, voilà. Petite pensée pour les petits magasins. Effectivement. Après, voilà, il y a des décisions aussi faites et des aides pour les petits magasins pour que, et justement, leur permettent des livraisons en ligne en ce moment. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire au numérique en France. Bon, c'était une petite news de la semaine. On vient d'y passer un quart d'heure. On va passer aux news du jour parce que c'était pas du tout une news du jour. Et on va commencer en parlant effectivement de Apple qui envisagerait de repousser la sortie de ses premiers iPhone 5G à 2021. Alors vous allez me dire, ah, mais c'est pas grave, etc. Justement, ça peut avoir de grosses conséquences économiques au niveau mondial. Apple et un iPhone, c'est énormément de fabricants tiers d'ailleurs à côté, c'est des pans entiers d'économie qui risquent d'être mis à mal. Mais effectivement, Apple serait en train d'évaluer la possibilité de reporter la sortie de ses prochains iPhones en 2021. Alors pourquoi ces iPhones 5G sont aussi importants, pas que pour Apple, pour l'ensemble du marché? C'est que d'après les indicateurs, la sortie de l'iPhone en 5G sera un gros marqueur pour l'économie des mobiles. Et comme je vous l'ai dit, cette semaine, on a vu que les smartphones, la chute était drastique de vente de smartphones. Donc, ça va mettre beaucoup de gens effectivement au chômage, des usines qui ferment, etc. Et beaucoup comptent effectivement sur le renouvellement grâce à la 5G. Beaucoup de gens qui avaient leur smartphone depuis 3, 4 ans, voire plus, vont peut-être se dire, bon, bah, la 5G arrivant, ça ne va pas être le cas en France. Mais dans des pays où la 5G, effectivement, commence à être mise en place, certains vont se dire, bah, c'est peut-être le moment de changer de smartphone, que j'ai un smartphone qui soit compatible avec la 5G. On sait déjà que le modèle low cost, le iPhone 9, on ne sait pas quel prix il aura, qui était prévu en mars, son lancement est décalé. Certains parlent même maintenant de fin août pour le smartphone low cost. Donc c'est vrai qu'Apple ne peut pas vraiment sortir son smartphone low cost en août et puis enchaîner sur l'iPhone 12 en septembre. Donc il est fort probable qu'il y ait un report globalisé de l'ensemble des sorties. Et donc Apple commence à penser à 2021. Le problème, c'est pas tant de lancer un smartphone, mais c'est que lancer un smartphone, vous n'imaginez pas la logistique qu'il y a derrière. La logistique, c'est pas uniquement amener des palettes de smartphones dans les magasins, mais c'est aussi toute la force de vente d'Apple. Ça, c'est des personnes en chair et en os qui doivent se déplacer, rencontrer effectivement les équipes d'Apple, les fournisseurs. Et comme Apple a bloqué tous les déplacements de son personnel actuellement, ils ne peuvent pas faire ces déplacements-là. Ils ne peuvent pas organiser en fait la chaîne logistique. Une distribution d'iPhone ou une distribution de Samsung aujourd'hui, c'est des volumes tellement importants que ça demande des logistiques qui prennent un an et demi à être mises en place pour pouvoir assurer. Nous, on est tellement là à pleurer parce que on a un jour de retard avec notre iPhone. Bon, alors nous, les YouTubers tech, on a le droit de pleurer quand on a un jour de retard sur notre smartphone. Parce que ça veut dire qu'on aura un jour de retard sur la sortie de la vidéo et que tout le monde va pleurer sur Twitter. Nous, on a le droit, mais vous n'avez pas le droit de vous plaindre. D'une manière générale, arrêtez de vous plaindre. Voilà. Soyez patient. Je sais, c'est un mot tellement désuet, la patience. Putain que ça fait vieux con, ce genre de réflexion. Bref, c'est une décision qui est quand même très difficile à prendre pour Apple, parce que ne voyez pas que Apple dans cette décision-là. C'est toute la chaîne de production, c'est tous les fournisseurs qui risquent de souffrir gravement de cette décision. Et ça risque de faire un effet domino en plus. Apple n'est pas le leader dans la vente de smartphones, mais c'est un point de repère assez important. La sortie de l'iPhone de l'année, c'est un peu un point important pour le marché. Donc, c'est une décision qui est difficile à prendre pour Apple. À mon avis, ils vont la prendre. Moi, je vois bien que tout va être décalé, quoi. Je me plains parce que je suis français. Oui, cessons un petit peu d'être français. De toute façon, la 5G sera bien en place pour le plus grand nombre. Moi, dans 2 ans, oui, en France, on va être un des derniers, pas des derniers pays à avoir la 5G, mais on va dire un des derniers pays du G20, on va dire, à avoir la 5G. On a pris beaucoup de retard. Mais il y a des pays où aujourd'hui, il y a une vraie couverture 5G et on le voit dans les ventes, hein. Les smartphones Samsung et etc. qui sont sortis avec de la 5G se vendent très bien. Donc, voilà. À la limite, repose la question en fin d'émission quand je prends des questions hors sujet. Je serai très heureux de te répondre pourquoi je ne fais pas mes lives sur Twitch. On continue dans les sujets du jour. Hier, c'était effectivement les annonces Huawei du P40, le P40 Pro et le P40 Pro Plus. Heureusement qu'ils n'ont pas lancé le P40 Pro Plus Ultra, hein, ou le P40 Pro Plus Ultra Elite. Parce que où est-ce qu'on va s'arrêter avec les superlatifs ? dans les noms des smartphones. J'imagine quand même pour les vendeurs. Vous voulez le P40, le P40 Pro ou le P40 Pro Plus ? C'est pas évident hein, quand même comme notion. Bref, on arrête de taquiner Huawei. Ils n'ont pas besoin de ça en plus en ce moment. Donc c'était effectivement le lancement en fanfare. Le P40 Lite est déjà disponible et il y aura donc maintenant le P40 Lite, le P40, le P40 Pro, le P40 Pro Plus. Et avec ça, vous mettez deux frites et un coca. Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Bah évidemment, des performances photo, on va dire, mises au goût du jour. C'est vrai que quand même, Huawei a été celui qui a initié, je crois... Alors, c'est peut-être pas les premiers à avoir mis un périscope dans leur smartphone, je voudrais pas me tromper. Mais on en a pas mal parlé avec le P30 l'année dernière. Donc, sur le P40 Pro Plus, il y aura non pas un téléobjectif, mais deux téléobjectifs, madame. Il y aura un x10 et un x3. Donc, le x10, bah, on en a un petit peu parlé, effectivement, avec les Galaxy S20 cette année, qui pourra aller jusqu'à ce fameux x100 mode Minecraft, je vois rien sur la photo. Je veux pas être mauvaise langue, mais franchement, ce x100... Là, ce qui est marrant, c'est que, autant le x100, ça m'aurait pas surpris de la part de Huawei, ça m'a un peu énervé de la part de Samsung. Je vais être tout à fait objectif là-dessus. Ça m'a déçu un petit peu de la part de Samsung de tomber dans ce côté x100 qui est inexploitable de leur smartphone. Huawei, ça m'aurait moins surpris parce que Huawei aime bien mettre de la grosse fiche de spec, de spécification bien musclée avec des performances jamais vues. Après, moi, je sais que le P30, certains d'entre vous l'adorent, trouvent que c'est le meilleur en photo. J'ai été beaucoup plus mesuré sur le P30 parce que j'ai trouvé que les caméras étaient mal réglées entre elles. J'avais l'impression d'avoir trois appareils photo différents et donc si, je dis bien si, un jour je teste les P40, ce sera une des premières choses que je regarde. Est-ce qu'ils ont réussi à harmoniser le rendu des photos entre elles ? Et qu'on ne se retrouve pas, parce que là, sur le P40 Pro Plus, on a 5 appareils photo différents. Il y a du grand angle, du moins grand angle, du télescope x3, ils ont mis autant d'objectifs qu'ils pouvaient dessus, des time of flight, etc. C'est un petit peu plus sage sur le P40, on retrouve un petit peu hein, les mêmes choses que l'année dernière, hein, un téléobjectif x5 optique et après un ultra grand angle, un grand angle, enfin les choses un petit peu plus traditionnelles. J'ai pas les infos sur le P40 lui-même. Alors oui, le P40 lui, il aura pas le capteur time of flight. Et il aura un zoom optique x3, avec un capteur de 8 mégapixels et d'un ultra grand angle. Donc, beaucoup plus sage. Au niveau vidéo, ça va être un petit peu renforcé, mais ils n'annoncent pas du 8K, comme l'a fait Samsung. On pourra quand même filmer en 4K jusqu'à 60 images secondes, voir après les limitations que ça engendre. Ce qui me paraît assez intéressant... c'est que leur caméra de façade va avoir un capteur de 32 mégapixels accompagné d'un capteur secondaire pour les effets de profondeur. Il y aura d'ailleurs une assez grosse encoche. Alors, c'est pas vraiment une encoche. Oui, j'ai un trou sur la face avant. Je vous montre un petit peu. Voilà, la face avant, on aura quand même un trou assez proéminent parce qu'il y aura aussi un capteur infrarouge pour améliorer les performances de la reconnaissance de visage. On voit hein, le capteur de dos du P40, là je crois que c'est le Pro Plus. On va avoir des grandes plaques chauffantes. Hein. Là, on va pouvoir faire beaucoup d'omelettes en série sur ces smartphones-là. Voilà un petit peu pour le rendu visuel. Ils ont manifestement adopté un design, on voit avec les bords qui remontent. Pas mal pour protéger l'écran. D'après les premières vidéos que j'ai vues, ça donne un rendu écran un petit peu bizarre. Là, on a vraiment l'impression que l'image va bord-bord. De l'écran recourbé, c'est pas tout à fait le cas en réalité. Donc, à voir. Non, ça ne rattrape pas les appareils photo numériques. Ça, j'ai déjà expliqué moult fois. Ça fait des très bons appareils photo, mais tu as déjà vu la taille d'un objectif d'un appareil photo hybride ou réflexe. Et puis, regarde la taille de l'objectif de ton smartphone. Il y a des règles en optique. La taille du verre compte énormément dans le traitement de la lumière, etc. Donc, non, on atteint certaines performances qui se rapprocheraient plus des appareils compacts de tourisme, qui même dépassent les appareils compacts de tourisme. On est encore très, très loin et il faudra vraiment... faudra qu'on trouve quelque chose dans les règles optiques qui casse la réalité scientifique d'aujourd'hui en science optique. Qu'on trouve une manière de faire des verres très petits qui ait la même qualité que les gros verres. Voilà. Yep. On continue effectivement sur ce P40. Au niveau processeur, ils ont mis du lourd. C'est le Kirin 990 qu'il y a dedans. Bon, on va pas faire toute la fiche de spec. Le rendu est pas mal, moi, de ce que j'ai vu. On va avoir un peu ce côté vert dépoli, avec plusieurs couleurs, hein, comme d'habitude, du blanc, du noir. Il y aura du bleu, il y aura du blanc, il y aura du gold. Ça dépend des modèles. On va pas faire toute l'énumération. Effectivement, le problème, on va pas s'en cacher. Huawei ne va pas embarquer les services Google. Un certain nombre d'annonces dans ce sens-là. Ils sont en train de travailler sur leur app galerie, mais on n'y est pas encore. Ils dévoilent leur propre assistant vocal, puisqu'ils n'ont plus droit à celui de Google. Il va s'appeler Célia. Siri, Célia, ouais. Il y aura des petites confusions sur les noms. Ils annoncent en outre l'arrivée d'une fonction de visioconférence qui va s'appeler MeTime. Ou encore d'un service Huawei Music donnant accès à 1,2 million d'albums et 600 000 artistes pour 9,99€ par mois avec 3 mois d'essai gratuit. Il y aura un service similaire pour la vidéo. Est-ce qu'ils essayent de faire leur propre YouTube ? Probablement baptisé Huawei Vidéo. A également été évoqué un système de cartographie. Ils ont signé un partenariat avec TomTom. En France, on l'a appris hier, ils ont signé avec Quant. Donc le navigateur ne sera plus Chrome ou autre. Ça sera pas le navigateur, le moteur de recherche. Ça sera Quant qui sera en tout cas en France sur les Huawei. Mais voilà, sortie de boîte. Un Huawei ne pourra pas utiliser les services Google. C'est pour ça que moi, il est quand même utile que je vous informe dessus. Je ne peux pas conseiller l'achat d'un Huawei. Oui, il y a des manières d'installer les services Google, mais après, c'est votre responsabilité. Google le déconseille pour des raisons de garantie et de sécurité, mais c'est faisable. On ne va pas s'en cacher non plus. Il faut juste savoir faire. Et ça ne va pas être à la portée de n'importe qui. Donc ça va être compliqué quand même pour Huawei sur ces modèles. C'est d'autant plus dommage qu'en termes de spec et en termes de hardware, ils ont l'air assez alléchants. Mais c'est vrai que de ne pas pouvoir utiliser les services Google, de bénéficier des mises à jour, de sécurité, etc., ça peut faire un petit peu très peur. Au niveau des prix et des disponibilités, le P40 et le P40 Pro seront disponibles à partir du 7 avril. Le prix public conseillé est fixé à 799€ pour le premier, avec 8Go de RAM et 128 de stockage. Avis comme ça, je trouve ça... Peut-être qu'ils auraient pu être un peu plus agressifs au niveau du prix. Voilà. Un petit 600€ pour le P40, ça aurait foutu un bon coup de pied. Et peut-être que certains se sont dit, bon, je vais peut-être faire l'effort d'installer les services moi-même. Ça aurait été intéressant. Le P40 Pro, lui, sera à 1000€ pour le second, avec les mêmes capacités de mémoire, mais en doublant le stockage. Pour le P40 Pro Plus, on n'a pas de date. Certains, ils évoquent a priori juin. Il sera à 1400€. En entrée de gamme avec une RAM à 8Go mais un stockage à 512 pour 1400€. Je trouve pas ces prix pas chers. Sachant qu'ils ont quand même un handicap. Alors, c'est une manière de dire pour Huawei de faire le bravage. On n'a pas d'handicap, on assume nos prix, etc. Pourquoi pas? Je pense qu'ils vont être difficiles à vendre quand même. Ils vont être, ils seront tous 5G, oui, j'ai oublié de le préciser. Oui, je pense que de toute façon... alors, je sais que beaucoup de mes collègues vont, en tout cas, l'ont reçu. Moi, je ne l'ai pas reçu. Hein, ou vont recevoir, ou ont reçu. Huawei va quand même en marketing. Ils ont contacté un certain nombre de, on va dire, d'influenceurs tech pour tester le produit. Donc, vous pourrez suivre ces tests-là chez mes éminents collègues. Je continue dans les articles du jour. On croirait presque le PC quand on annonce leur spec. Ah bah c'est clair, aujourd'hui les smartphones, c'est puissant. C'est puissant. Ouais, non, Huawei, en tout cas avec cette gamme-là, c'est pas des prix hyper agressifs. Tu pourras l'avoir. Je suis pas sûr d'être intéressé de les tester. Comme je les recommande pas forcément, je suis pas certain de vouloir les tester. Après, faut jamais dire jamais. Mais pour l'instant, c'est pas dans mes plans de les tester, personnellement. Puis en plus, ils m'ont pas contacté, donc... s'en foutent, hein. Tant pis pour eux, hein. Non, mais je suis pas sûr d'avoir... J'ai d'autres tests à faire. J'ai déjà les tests du Samsung qui sont super en retard. Enfin, vous connaissez la chaîne, hein. Ne faites pas les surpris, hein. Pensez pas que je sors 3 vidéos par semaine non plus, hein. Et ça y est, on va me traiter de fanboy. Ah ben c'est sûr que les iPhones, ça, je vais les tester. Hein. Allez, on continue. On va parler effectivement d'une appli qui a fait un peu de bruit cette fin de semaine, mais dont il faut peut-être se méfier. C'est Corona App, une appli de géolocalisation pour éviter les personnes contaminées. Le principe, ça a été développé par des Français. Alors, pour l'instant, c'est pas vraiment une app autonome, hein, c'est une web app. Alors, avant que vous soyez choqués, c'est basé quand même sur le volontariat où une personne qui a été testée et qui est officiellement atteinte du coronavirus peut se déclarer sur cette app. Et puis, les personnes qui veulent éviter les personnes qui sont atteintes du coronavirus peuvent, comme ça, les repérer. Dit comme ça, ça fait un petit peu peur, effectivement. En même temps, on se dit, bah, c'est assez logique. Merci beaucoup, Nori Sawa, pour ton super chat. Je vous suis depuis TechSop. J'avais juste encore envie de vous remercier. Ben, grand, grand merci à toi. Et oui, double dose, on se retrouve en live à 14h, puisque je fais 2 lives aujourd'hui. Et tous les jours, d'ailleurs, en ce moment, je fais... Enfin, sauf les matins où je ne fais pas de live, mais globalement, vous avez 2 lives par jour en ce moment. Je reviens sur mon article. Donc, ça peut faire effectivement un petit peu peur. En même temps, ça peut être une bonne idée. Moi, si personnellement... Et je sais hein, qu'un certain nombre d'entre vous ont commencé à avoir de la fièvre. Il est fort probable... qu'à partir d'aujourd'hui, vu que les périodes d'incubation arrivent à leur terme, beaucoup d'autres cas se déclarent dans les jours à venir, en tout cas je pense, si on suit un peu la courbe des choses. Donc ça peut être intéressant de dire aux autres, bah, écoutez, voilà, moi j'ai le corona, ou donc restez loin de moi. C'est une forme de civisme, donc ça peut paraître une bonne idée, mais il y a quand même beaucoup de problèmes par rapport à cette application. Elle a été lancée un petit peu vite. Alors, ils prennent des garde-fous, les données de géolocalisation ne seront conservées que pendant 4 jours et ne seront ni partagées ni revendues à des tiers. Si vous êtes porteur du coronavirus, nous notifions anonymement les personnes que vous avez croisées ces 14 derniers jours. C'est pas forcément une mauvaise idée. Le problème, c'est que c'est un peu vite fait et que ça réclame beaucoup de sécurité, beaucoup de contrôle de lancer une application comme ça. Et effectivement, il y a des failles déjà de taille dans le fonctionnement. La localisation n'est prise que toutes les heures, donc ça ne vous permet pas non plus de rester éloigné d'une personne qui a le coronavirus de manière fiable. En une heure, on peut se déplacer. Méfiance. Et puis, confier ses données personnelles à une société privée sans savoir véritablement de quelle manière elles seront utilisées, et notamment une donnée quand même médicale, une donnée qui relève de plus privé de la vie privée, hein, que sont nos données médicales, c'est un petit peu délicat. Il y a des incertitudes. Là aussi, hein, je dis que l'idée est peut-être pas forcément mauvaise, mais je serais plus rassuré si c'était une application qui était développée avec beaucoup de précautions autour et une caution d'organismes indépendants et ce genre de choses. Voilà, aujourd'hui, dire effectivement une société privée, j'ai le coronavirus. Même s'ils nous garantissent que l'info est effacée au bout de 14 jours, je suis pas certain de vouloir le faire, quoi. Pas certain de vouloir le faire. Mets le haut-parleur de son téléphone Corona Rhythm of the Night. Oui, après, voilà, on peut aussi se faire, on peut aussi se faire un t-shirt. Oh, putain. Ouais, non, j'imagine les mouvements de panique dans un supermarché. J'ai le Corona en t-shirt. Quelque part, ça serait civique. Mais ça déclencherait. Bon, en tout cas, si vous avez de la fièvre, si vous avez un soupçon, sortez encore moins de chez vous. Ça, c'est sûr. De toute façon, depuis le début, moi, c'est ce que je dis. Ne pas sortir de chez soi, c'est pas pour se protéger du coronavirus. C'est pour protéger les autres si jamais on est porteur du coronavirus. C'est comme ça qu'il faut prendre le problème. Et pas l'inverse. Moi, je sais que on a compté les petits papiers hier parce que je les garde. Je suis sorti 4 fois en 15 jours. Je suis sorti. Mais c'est vrai que chaque fois, j'ai pesé le pour et le contre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de sortir puisque je fais prendre des risques aux autres, et notamment les gens qui sont obligés de travailler, en potentiellement propageant un coronavirus dont je suis peut-être porteur. Oui, la fièvre n'est pas obligatoire. Non, non, il y a d'autres symptômes, effectivement. Les opérateurs télécoms sont prêts à nous géolocaliser. Ben, on en a parlé, ça, déjà, cette semaine. Là, c'est encore autre chose. Hein. C'est une société privée. Donc, cette application Corona App, méfiance. Ça part. Après, je dis pas que ceux qui l'ont lancé sont pas partis avec des bonnes intentions, mais méfiance quand même. Méfiance quand même. On continue peut-être avec des news un petit peu plus légères. Apple Watch. Et là, on est dans le domaine des brevets. Est-ce qu'on aura des Apple Watch en plastique pour la série 6? Ça serait pas une mauvaise idée en termes de prix. Si Apple pouvait lancer, et on sent qu'Apple, avec l'Apple Watch, veut faire comme avec l'iPad. Je sais que dans votre tête, Apple, c'est toujours trop cher. Chassez cette idée, 5 secondes, écoutez-moi. Regardez les prix des iPads aujourd'hui. On dirait un fabricant chinois, Apple, là. En termes de prix sur les iPads, c'est bradé. Apple a élu l'Apple Watch et l'iPad, en tout cas, c'est ma théorie, comme hameçon pour choper les gens et les amener dans l'écosystème Apple. Et alors, le truc, c'est que l'Apple Watch, c'est un super hameçon, parce que l'Apple Watch ne marche pas sans iPhone. Donc, si t'achètes une Apple Watch, donc, quelque part, l'idée d'avoir une Apple Watch très, très peu chère en plastique, alors, ce ne sera pas du plastique tout pourri. Il parle justement d'un plastique avec des injections de céramique dedans. Donc, ça sera probablement un plastique de très haute qualité. Mais pourquoi pas? Ça pourrait faire une montre très, très légère. Après, il y aura toujours les modèles en aluminium, etc. Mais d'avoir une gamme, on va dire dans les 200-300 euros, avec un finish plastique de couleur sympa, genre un peu les Swatch à leur époque, ça pourrait le faire. Alors, pour l'instant, c'est qu'un brevet, on ne peut que supputer, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée, quoi. Pour Apple, hein. Tout le monde dit qu'Apple est trop cher depuis quelques temps, ils ont des gammes. Oui, même au niveau de l'iPhone, l'iPhone 10R, et s'ils lancent un iPhone, alors... Quand on dit pas cher chez Apple, c'est relatif. Mais on va dire des prix accessibles et pas fous, comme ils font avec, avec le dernier iPad Pro ou les iPhones haut de gamme, qui sont des prix complètement délirants. On est bien d'accord là-dessus. Mais voilà, moi je pense qu'une Apple Watch entre 200 et 300 euros, allez, soyons fous, même une offre bundle avec un iPhone, avec le nouvel iPhone pas cher, allez, je vous fais le package entre 500 et 600 euros, t'as ton iPhone, t'as une Apple Watch, ça pourrait cartonner à Noël. Ça pourrait cartonner à Noël. Un alliage de polymère et de céramique original. Peut-être. Ouais, non, mais il faut voir. Et puis, il y a plastique et plastique. Hein. Encore une fois, le plastique, on a une vision très bas de gamme. Mais on l'avait vu à l'époque où les smartphones se faisaient encore en plastique. Et moi, je regrette quelque part qu'on ne fasse plus trop de smartphones en plastique parce qu'ils avaient certaines qualités. Et il y avait des très, très bons plastiques. Ça existe déjà une Apple Watch 3 à 200. Oui, mais je parle là d'une Apple Watch 6, 9, entre 200 et 300 euros. Le package pas cher d'Apple. Pierre-Yves, on peut être surpris. Hein. Apple a changé pas mal son fusil d'épaule et c'est vrai qu'on a une vision un peu passéiste d'Apple. Ils ont aujourd'hui des offres qui sont assez intéressantes et moi, je peux sans rire conseiller par exemple l'iPhone XR qui a un prix vachement compétitif par rapport à ses possibilités quand même. Et les iPads, tu as des iPads à moins de 300 euros. Franchement, ça vaut carrément le coup vu ce que ça embarque. Hein. Le métal a l'avantage de créer un dissipateur thermique énorme. Pas pour rien les bordures en métal. Oui, tout à fait. On sait aussi que le métal est venu pour ça. Mais c'est venu de plusieurs choses. Parce qu'on, je pense qu'on sait faire aussi des polymères qui savent dissiper la chaleur mieux que des plastiques Tupperware, quoi. L'iPad mini devait pas être un modèle pas cher. Ah, il est cher par rapport à... Non, aujourd'hui, les iPads de 2018, et ils valent carrément le coup. Hein. J'en ai même un ici. Ça vaut carrément le coup. Enfin, moi, je trouve que c'est un des meilleurs achats tech à faire si vous n'avez pas un iPad. C'est que à moins de 300 euros neuf, vous pouvez avoir un iPad aujourd'hui qui fonctionne super bien. Hein. Voilà, j'ai lancé la guerre Apple Android dans la chatroom comme d'habitude. Allez, on continue. On va parler un petit peu de l'application Zoom. Vous l'utilisez probablement beaucoup, ceux qui sont en télétravail et qui utilisent Zoom. Bah, y a peut-être deux, trois choses sur Zoom que vous ne savez pas et qui risquent de vous refroidir un petit peu. Vous ne le saviez peut-être pas, mais votre patron a une... votre patron, vos dirigeants, votre manager peuvent activer une fonction qui permet de... voir si vous suivez bien la réunion et de recevoir une notification si vous ouvrez une autre fenêtre que Zoom, si vous n'êtes pas attentif à la réunion. Alors, c'est une option qui peut être désactivée, mais vous n'êtes pas forcément informé que vous envoyez cette information-là à celui qui dirige la réunion. Et il peut voir si vous avez une autre fenêtre d'ouverte que vous avez mis devant Zoom. Et du coup, notez un peu ceux qui sont attentifs ou pas attentifs à la réunion. Alors, il y a des moyens assez simples hein, de contourner ça. Il suffit que vous lanciez votre visioconférence Zoom avec votre smartphone et puis votre Twitch. De toute façon, il n'y a pas Zoom dessus, hein, donc vous pouvez jouer comme ça. Hein. Là, vous ne voyez pas, mais depuis le début de l'émission, en fait, je suis en train de jouer sur une console et vous en étiez... Vous croyez que je suis en train de lire mon iPad, mais non, je suis en train de regarder une série en même temps, hein, parce que je n'ai pas que ça à foutre non plus. Donc voilà, on parle aussi hein, quand même d'un certain échange de données avec Facebook. Donc on va dire que Zoom, je ne veux pas dire méfiance parce que c'est facile de taper, ils sont en train de devenir leader hein, Zoom. Ça cartonne dans les entreprises, c'est une très bonne application. Mais aujourd'hui, leur politique de confidentialité, il faut y regarder de plus près. Disons que si vous êtes quelqu'un très à cheval sur la confidentialité de vos données, ce qui est tout à fait légitime, méfiez-vous de Zoom. Il y a peut-être d'autres alternatives plus sécurisées, quoi. Depuis le début du live, Jérôme est sur YouPorn et on n'a rien vu. Bah oui, et puis je me lève pas, donc vous verrez rien. Mais les deux mains sont présentes. Après, peut-être que j'ai fait un trucage, hein. Peut-être qu'une de mes mains, c'est une animation After Effects. Bref, souvent l'employé n'a pas le choix. Tout à fait. Tout à fait. Et ça risque d'être un peu difficile de dire à votre patron, patron Zoom en termes de confidentialité, bof, bof. Je veux dire, c'est le patron. Non, mais par contre, si vous avez un patron cool, vous pouvez peut-être l'informer que l'entreprise n'utilise peut-être pas l'outil le plus confidentiel qui soit. Ça peut être important même sur le contenu de vos réunions, sur les documents qui sont échangés, etc. Donc, Zoom n'est pas en autofocus. Oh là là, la vanne. Oh là 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 là. Bref, regardez de plus près si vous utilisez Zoom. On termine sur les news, sur une news un petit peu plus légère, mais assez spectaculaire quand même. Ça y est, la Terre a été recréée à échelle 1-1 sur Minecraft. Je ne déconne pas. Je vais vous montrer un petit moment de la vidéo. Hop, on va zoomer dessus. Alors, je vous montre, ouais, par exemple, là. Yep. Et ça ne marche pas. Si. Donc, la Terre a été entièrement recréée sur Minecraft. Alors, ça va plaire aux platistes. Elle a des bords, puisque ce n'est pas un globe. En fait, si j'ai bien compris, on ne peut pas le faire avec le Minecraft de base. Il faut quand même des mods. Et en extrapolant des données de Google Earth, ils sont arrivés à recréer la Terre. Non, ils ne l'ont pas faite cube par cube. Hein. Mais il y a plein de gens qui travaillent sur ce projet pour affiner, effectivement. Mais c'est à partir de données, effectivement, de Google Earth et d'images satellites qu'ils sont arrivés à recréer la Terre à échelle 1-1. Sur Minecraft. Donc aujourd'hui, le créateur de ce projet, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'article, demande de l'aide effectivement aux gens qui savent construire des choses sur Minecraft à grande échelle pour maintenant construire les villes, pour construire les constructions humaines, parce que volontairement, alors il l'explique par exemple avec les pyramides. Les pyramides sont interprétées par son moteur comme trois grandes collines et pas comme des constructions humaines. Donc maintenant, il va falloir effectivement intervenir. C'est très joli d'ailleurs le plan du soleil carré qui se couche. J'ai trouvé que c'était vraiment... Là, il explique comment installer, hein, puisque vous pouvez, hein, chez vous, installer la Terre sur votre Minecraft. Il explique tout un tas de choses. La vidéo est assez intéressante. Lui, de son côté, il prend en charge la construction de Seattle, qui est sa ville natale. Mais il demande de l'aide, effectivement, à d'autres personnes pour construire Google Earth. Ça ne sert à rien, Matt. Matt, il ne faut pas toujours que les choses servent. L'art, ça ne sert à rien. Le fait que je fasse un live, ça ne sert à rien. Mais ça sert beaucoup. Et c'est hyper intéressant, je trouve. Ne serait-ce que dans la compréhension de notre planète et de pouvoir se balader et en termes éducatifs aussi pour les enfants, ça ne sert à rien. Ta remarque ne sert à rien. Pauvre Matt, il s'en prend plein la gueule, mais tu l'as voulu, hein. Tu m'as fait une remarque avec des petits points et tout, visiblement pour que je la voie, hein. Il y a un tas de recherches dans le monde, il y a un tas d'arts qui ne servent à rien directement, mais qui nous sont indispensables. Matt en sueur, là, Matt, il se dit, oh putain, j'aurais dû fermer ma gueule. Non, moi, je trouve ça, au contraire, hyper intéressant. Hyper intéressant d'un point de vue artistique, d'un point de vue éducatif. Et puis, voilà, de dire ça sert à rien, c'est comme si vous disiez que tous les Legos que vous avez construits dans votre enfance ou dans votre âge adulte, hein, moi je continue à faire des Lego, bah ça sert à rien. Ça sert à rien de faire des Lego. Hein? Pauvre Matt. Bah, échec et mat, hein. Voilà. C'est très utile. Bien joué, Algaja. Matt, il n'ose plus parler, là, du coup. Désolé, hein, Matt, c'est tombé sur toi, mais... Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Hein. Ah bah oui, Minecraft, c'est le Lego virtuel. Et c'est absolument génial, moi, je trouve. Et ça n'empêche pas de jouer au Lego physique. Mais quelque part, Minecraft est le Lego dont moi, je rêvais quand j'étais gosse. Le Lego qui n'a plus de limites. Il y a plus de limites à part la créativité. Il est 9h50. Ouais, on va être en retard. Hein. Samuel, petite prévision, Madame Irma. On va être super en retard. Non, moi, je trouve ça super intéressant. Et je trouve ça super cool de l'avoir fait. Non, j'assume parfaitement. Je trouve que c'est un gâchis de ressources et de compétences. Donne-moi une utilité, s'il te plaît. Bah, écoute, Matt, je te retourne la question. Est-ce que, je sais pas, la Joconde est utile? Est-ce que de mettre des statues ou même des fontaines dans les villes, est-ce que ça a une utilité? Est-ce que se poser des questions existentielles, ça a une utilité? Est-ce que de faire des films, ça a une vraie utilité concrète? Je sais pas, ta question est bizarre, en fait. Parce qu'en disant que ça sert à rien, c'est presque comme si tu disais que tout ce qui était culturel, tout ce qui était artistique, ne servait à rien fondamentalement. Donc, après que ça ne te plaise pas et que tu trouves ça gâchis de ressources, bah à ce moment-là, il y a plein de choses qu'on fait, c'est du gâchis de ressources. Bref. Est-ce que regarder ce live a une utilité? Bah, ne serait-ce que de se poser la question. Matt serait-il un troll? Est-ce que les trolls ont une utilité? Moi, je dis que oui. Et je vous laisse avec cette pensée. On arrive à la fin des articles. Effectivement, on va essayer de limiter un petit peu le retard. Et je vois déjà le petit nerf sur la tempe de Samuel. Putain, il va terminer à 9h30. Bref. J'ai mal à la tête, moi. On ne peut pas reprendre une vie normale. Allez, c'est la fin des articles, mais... Avant de passer à la tartine, on va parler un petit peu de notre sponsor. Notre sponsor, et le coussin est de retour, c'est le Shadow PC. Et aujourd'hui, c'est un grand jour puisque nous avons notre gagnant du jour. Et je suis super content parce que notre gagnant du jour est un fidèle de l'émission. Je ne sais pas s'il est dans la chatroom aujourd'hui, mais on le voit quand même très, très régulièrement. Et aujourd'hui, le gagnant, eh bien, c'est AD Famille. Qui veut gagner un Shadow PC avec le mug Nowtech pour jouer à Alfluff. Alors, je ne connais pas ce jeu. Hein. Alfluff. À Flife sur Steam. Eh bien, écoute, tes vœux se réalisent. Tu vas effectivement pouvoir jouer à Alfluff. Sur Steam. Si vous aussi voulez gagner un Shadow PC, il y en a un à gagner un mois de Shadow PC toutes les semaines. Il suffit de faire un tweet comme a fait ADAD Famille. Il suffit de nous dire pourquoi vous voulez gagner ce Shadow PC et de bien mettre les hashtags Shadow PC et le mug Nowtech comme vous le voyez sur l'exemple pour pouvoir être tiré au sort le vendredi ou éventuellement être tiré au sort le vendredi. Eh bien, bravo à toi, en tout cas, AD Famille. Il n'a pas l'air dans la chatroom ce matin. Ah, il va être déçu. Il va être déçu. En ce moment, le Shadow PC, on oublie. Moi, il marche très bien, hein, le Shadow PC. Je sais que certains d'entre vous n'arrivent pas à se connecter à leur Shadow PC. Moi, j'ai eu des problèmes il y a 2 semaines. quand ils ont eu un pic de connexion, mais depuis qu'ils ont mis la limite de 30 minutes quand tu n'utilises plus ton Shadow PC, ça va bien mieux. Alors je sais, hein, je sais, je ne dénie pas que certains d'entre vous ont des problèmes avec leur Shadow PC, mais ne déniez pas le fait que chez certaines personnes, ça marche parfaitement. Les Shadow PC, ça existe, faut avoir. Il vaut mieux avoir. C'est pas tellement une connexion puissante, hein, le problème avec un Shadow PC, c'est une connexion très stable. Je le dis et je le redis. Il y a des gens en ADSL, mais avec un bon ADSL très stable, qui fait pas de la perte de paquets, qui ont une bonne expérience. Et d'autres personnes qui ont des fibres, mais des fibres qui font des yo-yo, qui ont des mauvaises expériences avec leur Shadow. La qualité des Shadows n'est pas baissée comme Netflix ou YouTube? Non. Alors, tu peux régler toi-même, hein, le débit. Non, ils ont mis, par contre, une limite de temps. C'est-à-dire que avant le confinement, si tu n'utilisais pas ton Shadow pour aller faire autre chose, pendant 4 heures, il restait allumé. Là, si tu lâches ton Shadow, au bout de 30 minutes, il s'éteint. En fait, la connexion s'arrête. C'est surtout pour laisser de la place aux autres, parce que bien évidemment, avec ces PC de gaming, il n'y a pas un PC en face de chaque abonné. Sinon, ça ne serait absolument pas rentable. Vous voyez le truc. Après, c'est sûr que si chez vous, en ce moment, tout le monde utilise Internet, vous allez avoir des problèmes avec votre Shadow PC. La bande passante sortant d'un foyer, elle est aussi limitée. Donc, si vous avez toute la famille, le père qui fait une visioconférence, le petit frère en train de jouer à un jeu vidéo, votre sœur en train de regarder Netflix, votre mère en train de faire du FaceTime, et vous qui essayez d'allumer votre Shadow PC, vous allez avoir des problèmes, c'est évident. C'est évident, c'est évident. Ils ont eu des soucis au début, Shadow, parce que tout le monde voulait utiliser son Shadow en même temps, et il n'y avait pas assez de Shadow pour tout le monde, au début du confinement. Moi, depuis, personnellement, j'ai pas eu de problème, quoi. J'ai pas eu de problème. Pas le choix, il faut supprimer des membres de votre famille. Vous pouvez aussi vous prendre une connexion pour vous, hein. C'est aussi une autre solution pour garder sa famille. Allez, on passe tout de suite, parce que là on est vraiment en retard, on passe tout de suite à la tartine, on va parler un petit peu d'écologie et de confinement. Est-ce qu'on va retirer quelque chose de ce qui nous arrive? C'est la question qu'on va se poser, surtout que je vais vous poser. C'est le moment de la tartine. Bonjour à toi, l'atelier cuisine de Jérémy. Bonjour, je suis nouveau, j'aime beaucoup votre contenu. Le Mug Now Tech, c'est tous les vendredis, si j'ai bien compris. Non, c'est encore mieux que ça, l'atelier cuisine de Jérémy. Le Mug, c'est tous les jours. Simplement, du lundi au jeudi, c'est sur notre chaîne secondaire qui s'appelle Now Tech Live. Tu peux la chercher sur YouTube et t'abonner. Mais c'est toujours le même horaire. De 8h à 9h, il y a un live. Le mercredi, en général, c'est Marion qui présente. Le jeudi, c'est Guillaume. Et les autres jours de la semaine, c'est moi, donc lundi, mardi, c'est moi. Et le vendredi, on se retrouve sur la chaîne principale. Si ça te plaît comme ça d'avoir une petite revue de presse sur la technologie tous les matins pour te réveiller, il faut t'abonner à notre chaîne secondaire pour l'avoir tous les matins. Voilà. Donc, parlons un petit peu, je voulais partager avec vous. Alors, vous avez peut-être vu des articles sur la diminution du trou dans la couche d'ozone. Et certains, alors j'ai entendu un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, certains ont dit « Waouh, grâce au confinement, on est en train de réduire le trou de la couche d'ozone ». Non, 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 vous avez mélangé deux choses. Il y a des articles, effectivement, parce que c'est une recherche longue, mais effectivement, en 2019, Le trou dans la couche d'ozone était le plus petit jamais enregistré depuis que nous l'avons généré. Un article de recherche publié le 25 mars 2020 dans Nature fait le point sur cette amélioration. Donc c'est pas quelque chose qui est lié au confinement. Mais déjà, bah, on va dire tant mieux hein, si on arrive effectivement. Et ce qu'il y a de plus important, presque, le trou dans la couche d'ozone, c'est qu'en fait, les jet streams, les courants, vous le savez, d'air chaud, d'air froid qui régulent notre planète, sont en train de revenir à leur place normale. Donc ça, c'est un bon signe. Se greffe à ça, effectivement, un certain nombre d'articles qu'on lit aujourd'hui sur le fait que la nature reprend ses droits, notamment dans les villes. Et c'est vrai que là, rien qu'en 2 semaines, il y a des choses qu'on n'avait plus l'habitude de voir à Paris, qu'on voit. Moi, je vois que le square en face de chez moi, on entend beaucoup plus les oiseaux. Ils réinvestissent un petit peu le territoire. L'air semble plus pur. On voit un petit peu plus les étoiles à Paris. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Alors, est-ce que c'est une déformation intellectuelle? Je n'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'on voit un peu plus les étoiles à Paris. On le sent quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui vont mieux. On a tous vu effectivement les canaux de Venise. Alors, c'est pas qu'ils se dépolluent, c'est simplement que les sédiments... Et c'est vrai que moi, je suis allé à Venise, on y allait il y a quoi? Il y a 3-4 ans. L'eau, elle est boueuse parce que tous les sédiments sont agités par l'activité humaine, le moteur des vaporetto, etc. Et là, les sédiments se redéposent. Donc, on voit des poissons dans les canaux de Venise, etc. Donc, on a l'impression que la nature reprend ses droits. Alors, il faut raison garder. Beaucoup de biologistes disent « il y a du pour et du contre ». Parce qu'il faut pas oublier, par exemple, que l'agriculture est quelque chose de très important pour pas mal d'animaux. Et le fait que l'agriculture y ait des problèmes, ça va peut-être aussi poser des problèmes pour les animaux. Mais globalement, c'est une bonne chose. Mais pour l'instant, l'effet est trop court pour vraiment mesurer des effets ultra positifs. Même s'il y a certains effets visuels qui sont tout de suite flagrants ou même auditifs. Hein, le silence à Paris, c'est... Oh là là, ça donne envie de se confiner une fois par semaine, hein. Qu'on oblige tout le monde à se confiner le vendredi soir, moi je dis, pas de bruit. Oh, le bonheur. Bref, tout ça pour dire que... Et c'est la question que je voulais vous poser. On est quand même en train de s'apercevoir de tout un tas de choses. Ce confinement, parce qu'il faut essayer de voir le positif dans le négatif. Ce confinement est très négatif, il y a des morts, etc. C'est une catastrophe. Mais on a, et c'est quasiment unique dans l'histoire de l'humanité, un confinement quasi généralisé sur l'ensemble de la planète. Et si ce confinement dure, et il dure quand même un petit peu, on va peut-être pouvoir voir un petit peu ce que ça fait quand on met un coup d'arrêt à l'activité humaine. Qu'est-ce que ça génère comme problème économique, etc. Ça, on va les voir, on va se les prendre dans la gueule très très violent. Hein. Je ne veux pas être pessimiste, mais il y a de quoi l'être. Mais on va aussi redécouvrir peut-être d'abord la valeur de certaines choses. On va découvrir que finalement, bah, peut-être que chaque année, quand on a le nez qui coule, quand on a la crève, eh ben, c'est peut-être pas la peine d'aller au boulot pour contaminer tout le monde. Et puis, porter un masque, c'est un peu civique, comme ils font en Asie. On devrait peut-être s'y mettre, hein. Au lieu de se moquer d'eux qui crachent dans la rue, alors que nous, on se balade avec des mouchoirs pleins de morve dans nos poches. Enfin, bref, eux, au moins, ils mettent des masques quand ils sont malades pour respecter les autres. Et ils vont pas aller bosser quand ils ont la crève. Parce que le télétravail, ils connaissaient déjà. Et nous, le télétravail, on découvre pour certains que le télétravail, ça marche. Pas pour tous les corps de métier, mais ça marche pour certains. Et que ça évite d'aller filer la crève à tout le monde. Donc, on a un certain nombre de comportements. Peut-être que même le télétravail, ça évite de prendre sa bagnole une, deux fois par semaine pour aller au boulot. Donc, il y a des choses qui sont en train de changer drastiquement dans nos habitudes par la force des choses. Mais est-ce qu'on va en retirer les enseignements? Et c'est la question que je vais vous poser. C'est est-ce que vous pensez que si la situation redevient normale, pour peu qu'on puisse parler de situation normale, est-ce qu'on va oublier tout ça vite fait et on va revenir à « allez, on pollue, on retourne au boulot, je rallume le 4x4 » ou est-ce qu'on va en retirer des petites choses? Quel est votre avis là-dessus? On change le paradigme social. Hamza, on a déjà parlé du Huawei P40. C'était en début d'émission, mais tu pourras écouter dans le replay. J'espère pas. Est-ce que vous avez envie de revenir à la vie exactement d'avant qu'on avait? Je ne veux pas être négatif, mais connaissant les humains, ça va repartir comme en 40. Je pense que les cours ont modifié les choses à l'avenir. Ça va revenir comme avant, voire même pire. L'homme est oublié. Vous êtes super pessimiste, hein, en fait. J'aimerais que ça change, mais j'ai bien peur que ça redevienne comme avant. La bêtise humaine est infinie. Ouais, en gros, l'humanité, on en a pour quelques années, hein, quoi. Puis après, c'est fini. Les gens vont rien changer. Bah, moi, j'y réfléchissais. Quelque part, je suis d'accord avec vous. Hein. Je suis pas naïf non plus. Je pense que effectivement, beaucoup de mauvaises habitudes, on va les reprendre très très vite. Mais si on regarde les petites choses, et c'est pour ça que j'ai passé autant de temps à parler de mettre un masque quand on est malade, ne pas aller au boulot quand on est malade. Moi, j'aimerais qu'on change les lois en France sur les congés maladie, parce qu'aujourd'hui, le système des congés maladie pousse les gens à aller au boulot quand ils ont la crève et de filer leur saloperie à tout le monde. Moi, j'aimerais que si on retire une chose positive en France de ce qui est en train de nous arriver, qu'on change le droit du travail pour que quand quelqu'un a un rhume, quand quelqu'un a une grippe, quand quelqu'un tousse, quand quelqu'un a des miasmes, on l'encourage à rester chez lui plutôt que de l'encourager à aller au boulot. Par contre, on fixe les règlements de télétravail, une présence de télétravail obligatoire. On peut télétravailler avec une petite fièvrette. Hein. Moi, j'ai monté des vidéos avec de la fièvre, mais chez moi. Et enfin, chez moi, c'est justement, en fait, c'est Karina, cette année, qui, elle est arrivée un jour avec un masque. Je lui dis, bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'as peur de quoi? Elle me dit, non, moi, j'ai peur de rien, mais j'ai la crève. J'ai pas envie de te la refiler. Et putain, j'ai fait, mais ouais, mais c'est ce qu'il faut faire, quoi. C'est ce qu'il faut faire. Chaque fois qu'on a le nez qui coule, chaque fois qu'on tousse, il faut protéger les autres. Et s'il y a une chose que j'aimerais déjà, qu'on ressorte de cette expérience, c'est ça. Qu'on arrête de se tousser dessus, qu'on arrête de se faire la bise quand on a la crève, que ces réflexes qu'on est en train de développer avec le confinement, on puisse les garder pour après, quoi. Et c'est pas un hasard si effectivement des pays comme Taïwan, comme la Corée du Sud, comme certains pays d'Asie, il y a eu beaucoup moins de propagation. Ils ont l'habitude de certaines règles d'hygiène par rapport au virus que nous, on n'a pas, quoi. Tu penses que pour les youtubeurs, ça va avoir un impact économique? Bah, on se prend déjà un impact économique énorme dans la gueule, hein, nous. Je peux vous dire que les publicités, elles ne rapportent pas grand-chose en ce moment sur YouTube. Et il n'y en a plus beaucoup, hein, des pubs. Hein. Les pubs sont suspendues. Donc oui, ça a une conséquence économique pour nous aussi, hein, les YouTubeurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui font beaucoup, beaucoup de vidéos en ce moment pour essayer de grappiller tout ce qui reste comme pub, quoi. Mais on en reparlera en fin d'émission. Je continue un petit peu sur le sujet. C'est surtout pour la planète qu'il faut que ça change. Moi, je pense quand même, j'espère en tout cas, que ça nous fera réfléchir. J'espère que moi, je continuerai à réfléchir et que ça changera peut-être certaines de mes habitudes. J'espère. Peut-être que je rejoindrai le rang des cons et que je referai les choses exactement comme avant. Mais je sais que je réfléchis beaucoup. Je sais que je ne suis qu'une petite goutte d'eau dans l'océan, mais l'océan est fait de petites gouttes. Donc si un nombre de petites gouttes, ça nous fait changer une certaine vision des choses. Mais déjà, les petites choses, c'est pour ça que je parle de ce réflexe de protéger les autres quand on a la crève. Si ça, c'est une chose qu'on pouvait garder en France, ça serait bien. Voilà. On limite le périmètre de nos consommations quotidiennes et il y aura résilience, oui. En 2 mois, on reprendra toutes nos habitudes, malheureusement. Bah, déjà, si vous décidez de ne pas le faire, bah, on est combien là? Il y a 700... Waouh, il y a du monde ce matin. Waouh! On est 725 en ce moment, là, en ce moment T, à regarder l'émission. On va dire que si c'est 725 personnes qui nous regardent, ça fait 725 gouttes dans l'océan qui vont changer leur comportement à la fin. Donc, ce que vous êtes en train de me dire quand vous dites que de toute façon, on reviendra dans nos excès d'avant parce qu'on est des gros cons, eh ben, ça veut dire que vous aussi, vous allez revenir dans vos excès d'avant. Eh ben, c'est dommage. Voilà. Ah non, moi, j'ai 700... Là, j'ai 734. Faudrait être moins pessimiste. Allez, on prend l'engagement. On va dire c'est l'engagement des 734 de 9h10. Putain, on est en retard. L'engagement des 734 de 9h10 de changer nos comportements à la fin de ce merdier. Vous êtes d'accord? Tout le monde signe là dans la chatroom? On est 734 petites gouttes d'eau à changer nos comportements. On va essayer, ouais, ouais, bof. Go, ok, je signe. C'est bien, engagez-vous. C'est cool. Voilà, on est en train de créer un mouvement social. Le club des 734 de 9h10. Ah, la communauté, qu'est-ce que je ferais sans vous? Qu'est-ce que je ferais sans vous? Allez, hein, c'est pas tout ça, mais il va falloir qu'on passe à la dernière partie de l'émission. On est très, très en retard. Donc, je vais prendre quelques questions en fin d'émission. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver à 14h. Hein. On fait un deuxième live dans la journée pour lutter contre le confinement et la solitude de certaines personnes. On a décidé pendant toute la période de confinement de faire un live à 14h. Ça sera sur cette chaîne, la chaîne principale. Par contre, les replays ne sont disponibles que dans la playlist. Ils ne seront pas publiés sur la chaîne, les replays de ce live. Je ne sais pas si j'étais clair, mais on verra si vous comprendrez. Allez, on passe au corn fac. C'est le moment de me poser des questions. Oula. J'ai raté mon bouton. Alors, il y a une question platinium dans le flipboard. Ah, déjà qu'on n'a pas de temps. Hop, je vais dans le flipboard pour trouver la question platinium. Les platinium, c'est nos contributeurs platinium qui sont prioritaires. Et oui, on est dans un monde de privilèges. Qui sont prioritaires pour les questions. Alors, question platinium de Educatux. Question platinium. J'ai environ 40 000 photos à trier, à gérer. Comme moi, c'est à peu près 40 000. Il y a des doublons dedans et je cherche donc un logiciel de gestion de bibliothèque photo pour macOS qui va être capable de gérer les doublons mais aussi d'organiser les photos sur mon disque. C'est pour une utilisation de père de famille qui pratique la photo en amateur depuis 20 ans. Je n'ai pas forcément envie de voir toutes les photos sur iCloud et du coup je n'utilise pas l'application native de Mac. J'ai longtemps utilisé la suite ACDC et c'est un produit un peu comme cela. Merci d'avance pour tes conseils. J'ai pas vraiment de conseils à te donner parce que moi-même, je cherche un peu une application pour m'aider dans le tri de photos et j'ai rien trouvé de parfait. J'avais essayé quelques applis, mais moi, à la différence de toi, je synchronise mes photos avec le cloud. Donc, des applis pour iPad ou iPhone peuvent regarder ma bibliothèque de photos et m'aider à trier, mais j'ai pas trouvé ça très convaincant. Moi, j'aimerais effectivement une appli qui me permet aussi d'enlever les RAW, parce que souvent, je prends mes photos RAW plus JPEG. Et il y a certaines photos, notamment les plus anciennes, j'ai pas envie de conserver les RAW, je veux juste conserver le JPEG. Je cherche une application puissante qui me permettrait de faire ça sur des batchs entiers de photos, mais pour l'instant, j'ai rien trouvé. Donc, je m'en réfère à la communauté. N'hésitez pas, si vous avez des conseils à donner là-dessus, à les donner. Lightroom, j'avoue que je l'utilise assez peu pour... Lightroom, il y a une fonction bibliothèque. Faudrait peut-être que je me penche un peu plus sur les fonctions bibliothèques de Lightroom. Ouais. Est-ce que je vais tester le futur clavier Logitech pour l'iPad Pro? Si je l'ai, oui, je le testerai. Pourquoi tu ne fais pas un script pour auto-delete juste les RAW? Parce que je ne sais pas écrire un auto-script. Et puis, il va déconner, il va me faire une merde. Ça me fait très peur. J'ai pas envie qu'il vire mes RAW actuels, tu vois. Le truc, c'est que j'aimerais pouvoir décider... Et je ne saurais pas faire un script qui, dans photo, dirait tu supprimes le RAW mais tu gardes le JPEG. Luminar, c'est comme Lightroom. Oui, il y a aussi des alternatives. Photomécanique, c'est pas mal aussi. D'accord. Le Finder de Mac permet des classements intéressants. Ouais, mais je veux voir mes photos avant de décider. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'on va terminer à 9h20, hein, Samuel. Il est déjà 9h15. Ouais, Gemini, j'ai essayé. Ça ne m'a pas convaincu. Hein. Le Huawei floute tout le temps, c'est normal. Non, a priori, non. Pourquoi tu ne fais pas tes lives sur Twitch ? Écoute, alors d'ailleurs, j'informe ceux qui sont déjà abonnés à une chaîne Naotech sur Twitch, c'est pas nous. Notre chaîne, on est en train de travailler dessus. On aura une chaîne Twitch, je ne sais pas encore exactement ce qu'on en fera. Ça va s'appeler Naotech QG. QG en majuscule. Vous pouvez éventuellement aller la chercher. Ça, c'est notre chaîne officielle sur Twitch. Parce que quelqu'un a déjà pris le nom Naotech. Voilà. Le truc, c'est que malgré ce qu'en disent certains, pour moi, Twitch est encore le domaine réservé du jeu vidéo. Je sais, il y a Popcorn, qui est une excellente émission. Et d'ailleurs, chapeau à toute l'équipe de Domingo. Moi, je regarde, je suis assez fan de l'émission. Si je pouvais faire des mugs avec, avec une équipe comme ça, ça serait mon rêve. Mais un gros, gros chapeau à Popcorn. Et... voilà, l'exemple de Popcorn me fait réfléchir effectivement à exporter éventuellement l'émission sur Twitch, mais j'aimerais aussi amener du contenu jeux vidéo sur Twitch. Je vais vous expliquer. Alors oui, j'ai du poil blanc, je suis un daron, enfin j'ai l'âge de vos darons pour beaucoup d'entre vous, voire de vos grands darons. ce qui n'empêche que je suis d'une génération... où bah, j'ai toujours eu des jeux vidéo et je continue à mon âge à jouer à des jeux vidéo. Alors peut-être que je joue à des jeux un petit peu différents qu'à une certaine époque parce que j'ai moins de temps. J'ai jamais vraiment aimé tout ce qui était FPS, jeux compétitifs et rapides. Et à part peut-être Overwatch qui me défoule un petit peu. Et donc je cherche un petit peu ce que je pourrais faire sur Twitch. Pour l'instant, je ne promets pas hein, qu'on va faire des let's play ou des choses, mais on a une vraie réflexion de la chaîne sur qu'est-ce qu'on pourrait amener de pertinent sur Twitch. Et pas forcément commencer par le mug qui débarque sur Twitch, en fait. Une double diffusion, ça me fait très peur, les doubles diffusions, parce que ça veut dire double chatroom. Et je sais que la chatroom se plaint toujours que je ne la lis pas assez, mais je trouve que j'utilise beaucoup la chatroom et j'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin de vous. YouTuber, c'est mon boulot? Oui, c'est mon boulot. Voilà, moi je suis plutôt role-playing game, je suis plutôt stratégie, j'aime beaucoup la stratégie tour par tour, mais ça j'ai toujours aimé, hein. J'ai toujours été un fan de Civilization et pour moi le meilleur jeu du monde, et le reste, bon il y a eu des versions plus ou moins bonnes, j'aime beaucoup les Total War, avec Marion on joue en coop à Divinity Original Sin qu'on adore, il y a bientôt Baldur's Gate 3 qui sort. Voilà, c'est des choses sur lesquelles je réfléchis et je trouve qu'il n'y a pas vraiment pour l'instant sur Twitch de contenu streaming qui s'adresserait, on va dire, aux 30, 40-naires, 50-naires, la génération X, qui continue à jouer et qui jouera probablement jusqu'à sa mort, parce que moi, j'abandonnerai pas les jeux vidéo tant que je peux jouer. C'est pas parce que j'ai des poils blancs que je vais arrêter de jouer aux jeux vidéo, quoi. Et je trouve qu'elle n'est pas hyper bien représentée. Pour l'instant, Twitch est quand même très jeune, quoi. Ouais, je joue à Overwatch, ouais. J'aime bien Overwatch. Je sais que c'est plus du tout à la mode, Overwatch. Ça va peut-être revenir avec Overwatch 2. Mais je joue à Overwatch, ouais. Alors, Animal Crossing, j'y joue pas. Karina y joue. Voilà. YouTubeur, alors je me sens moins complexé sur YouTube. Je sais que dans les YouTubeurs français, il n'y a pas beaucoup de gens de mon âge, mais il y en a quand même. ou en tout cas dans ma, on va dire, ma gamme d'âge, que ce soit voilà, Monsieur Greux, Pépé Garcia, etc. On a un certain nombre quand même, même dans la tech. Après, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de gens, même beaucoup plus âgés que moi. Aux États-Unis, on va dire que les catégories d'âge sont bien mieux représentées sur YouTube. Là, je parle spécifiquement de Twitch. Twitch est quand même très, très jeune, hein, encore. J'ai pas testé Anno 1800. J'ai pas eu le temps, effectivement. Qui est Karina? Karina, c'est, elle est productrice chez, chez Nowtech. Le Grand Est aussi, hein, effectivement, Nicolas Cattard. Eh ben voilà, eh ben ça rond, ça montre bien. Hein, 69 ans et tu joues aux jeux vidéo. Mine de rien, il faut comprendre que les gens qui aujourd'hui arrivent entre 40 et 50 ans, c'est des gens qui ont toujours joué aux jeux vidéo. Et on va pas lâcher les jeux vidéo parce qu'on est... Le jeu vidéo s'arrête pas quand on a 30 ans, quoi. Certains très jeunes pensent que le jeu vidéo, c'est que pour les jeunes. Mais non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Qu'est-ce que tu penses des fonctions AI de Luminar? J'ai pas testé Luminar. Est-ce qu'on sort pas un peu de la photographie? On a eu ce débat là au dernier salon de la photo. Tu peux aller voir la vidéo. Les youtubeurs de 70 ans sont rares. Va voir les chaînes américaines. Hein. Je peux te dire que 70 ans, mais j'en connais hein, qui ont 70 ans des youtubeurs. YouTube en France reste un peu côté jeune, cette image de truc de jeune. Aux États-Unis, c'est de moins en moins le cas. Hein. Vive les jeux vidéo, un message d'un quinquagénaire. Eh ben écoute, voilà. J'ai vu que quelqu'un avait lancé sur Twitch les jeux du daron. Donc je peux pas reprendre le titre, mais j'aime bien le titre. Et c'est un petit peu ce que j'aimerais faire. Allez, la chaîne Nowtech qui veut arrêter son propre direct. Hein, arrêtez de critiquer Samuel qui est derrière le pupitre à s'acharner, à me faire arrêter à temps. Il est 9h22, c'est complètement indécent. Il va falloir que j'arrête là. Je vous fais d'énormes bisous de loin, hein, de très très loin. Je vous souhaite une bonne journée, beaucoup de courage. On se retrouve en tout cas pour le mug à partir de lundi matin 8h. Mais cet après-midi à 14h, je vous retrouve pour notre petit live décomplexé où on parle de tout et de rien. Le Nowtech Coffee, c'est à 14h sur cette chaîne. Donc on se retrouve tout à l'heure. Et puis ce week-end, pas de live. Week-end, je fais autre chose. Hein, voilà, c'est important aussi hein, de cloisonner. Je vous aime beaucoup, mais il y a un moment, il faut que je reprenne mon souffle. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.